Jean-Paul nous a dit qu'effectivement nous étions aujourd'hui le dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques, et je me suis dit que je ne pouvais pas faire l'économie de dire quelques mots à propos de cette fête. Et d'un autre côté, on m'a aussi demander de parler encore une fois des choses que j'ai apportées dans les enseignements que j'ai donnés il y a quelques semaines. Alors je me suis dit, comment est-ce que je vais faire se rejoindre ces deux choses-là? Et je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Dimanche des Rameaux. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a lu récemment dans Luc 19 comment Jésus est entré dans Jérusalem. Je reprends le passage, c'est à partir du verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont appelé Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz: Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. C'est ce qu'on appelle parfois l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et il est acclamé par des gens qui sont là, par une foule qui est là, et qui dit: Béni soit le roi, qui reconnaissent Jésus comme le roi. Et ils lui font comme un tapis rouge avec des vêtements qui posent sur le chemin qu'emprunte Jésus sur son ânon. Et on dit, mais dimanche, des rameaux, où sont les rameaux? En fait, les rameaux, ils sont mentionnés dans l'évangile de Matthieu, où il est dit que non seulement les gens étendent des vêtements, leurs vêtements sur le chemin, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont derrière, ils vont les rechercher, puis ils remettent devant pour continuer de meubler le chemin, mais ils vont aussi couper des branches des arbres voisins et ils les disposent sur la route. D'où les rameaux. Jésus est reconnu comme roi et les gens se souviennent de la prophétie qui se trouve dans Zacharie 9,9 et qui dit: Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Seulement, la nature de sa royauté et de son règne n'est pas encore comprise, comme on le voit quand les disciples qui rencontrent Jésus ressuscité sur le chemin d'Emmaüs et qui lui disent: Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ces deux-là faisaient peut-être partie de ceux qui ont acclamé Jésus comme roi le jour des rameaux. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, puisqu'il a été crucifié. Et ils sont en train de dire cela au Christ ressuscité qu'ils n'ont pas encore vraiment reconnu. Et donc, la foule qui a acclamé Jésus lors de son entrée à Jérusalem n'a pas vraiment compris de quelle royauté il s'agissait. Et nous, est-ce que nous l'avons compris? Il y a eu Pâques. Il y a eu la mort, la résurrection, il y a eu l'ascension, et Jésus est monté au ciel à la droite du Père. Il n'est plus là, physiquement. Il reviendra à la fin des temps. Et là, il sera le roi des rois, le seigneur des seigneurs, comme c'est dit dans l'Apocalypse. Et en attendant, entre deux, dans cet entre-deux, entre l'ascension où Jésus est monté à la droite du Père, et le moment où il reviendra en gloire pour régner effectivement comme roi des rois et seigneur des seigneurs, comment le Christ est-il présent sur terre? Eh bien, dans ma compréhension en tout cas, et il me semble que c'est confirmé par la parole, il est présent par son esprit qu'il a donné après être monté auprès du Père, de la Pentecôte, par son esprit et par l'Église. L'Église, Ecclésia, l'Assemblée. Les deux ensemble. L'Église est son corps et ce corps est animé par son esprit. Un corps sans esprit, il est mort. Et un esprit sans corps, il est inopérant. Il faut la rencontre des deux pour que Jésus continue d'être présent, vivant, visible, en quelque sorte, sur terre, en attendant qu'il revienne à la fin des temps. Et donc, c'est par nous, au travers de nous, qu'il continue d'être présent. On dit « nous sommes chrétiens ». En allemand, on dit pas « je suis chrétien », on dit « ich bin Christ ». Je suis le Christ, en quelque sorte. C'est fort comme affirmation. Et donc, il nous appartient d'incarner, en quelque sorte, l'esprit de Jésus, et encore à plus forte raison quand nous sommes ensemble, quand nous sommes en assemblée. OK, bien. Mais un peu plus concrètement, peut-être, ou comment réaliser cela? Comment est-ce que nous pouvons être Christ dans ce monde? Ou au moins, comment est-ce que nous pouvons refléter une meilleure image du Christ dans ce monde? Eh bien, je l'ai dit, en se rappelant que c'est l'Église qui est son corps, la communauté, l'Assemblée, l'Ecclésia, et que ce corps est animé par le Saint-Esprit. Il faut les deux. Et, comme je disais, on ne peut pas les séparer, parce que une Église qui n'a pas l'Esprit de Dieu, elle est pour ainsi dire morte. Souvenez-vous, Apocalypse 3.1, ce que Jésus demande à Jean d'écrire à l'ange de l'église de Sardes, « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Donc, ensemble, en communauté, nous pouvons constituer le corps du Christ avec tout ce qu'il a donné pour que ce soit possible, parce qu'il y a de nombreux dons de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, qui sont là pour nous équiper et nous faire vivre ce qu'il a voulu que l'Église vive pendant le temps où nous attendons son retour. Et je vais citer à nouveau ces versets que j'ai déjà cités bien des fois dans les enseignements que j'ai donnés il y a quelque temps. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de charismes, mais le même esprit. Il y a toujours cette idée d'une diversité et d'une unité. Et c'est l'esprit qui donne cette unité. Il y a diversité de services, diaconia, diaconie, ça a donné la diaconie, mais le même Seigneur, Jésus. Diversité d'opérations, le mot c'est en grec energema, qui veut dire les effets des réalisations, des opérations, effectivement, mais le même Dieu, Théos, qui opère tout en tous. Vous voyez, dans cette énumération, c'est une énumération trinitaire, où il est question du même esprit, du même Seigneur, du même Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père, et chacune des personnes de la Trinité donne des choses spécifiques. Et nous avons besoin du tout. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, excusez-moi, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Cette image du corps avec ses différents membres, les différentes fonctions, les différents effets des membres du corps, elle est constante quand il est question de l'Église, et on la retrouve ici. Et donc, je crois que nous sommes appelés à refléter Jésus en agissant comme il le souhaite, en utilisant, en vivant les dons, les services, ces opérations qui sont là pour nous. Vous savez, Jean a dit que le Christ est la véritable lumière. Le Christ est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est dans Jean 1, 9. Comment reflétons-nous cette véritable lumière? Eh bien, ça c'est ma compréhension, c'est ce que je vous propose comme compréhension ce matin. La lumière du Christ, elle est réfractée quand elle rencontre notre humanité. Et l'humanité, c'est comme un prisme qui décompose cette lumière parfaite du Christ en dans les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Moi seul, je ne vais pas refléter tout le Christ. Mais peut-être un aspect. J'espère. J'espère que je ne vais pas trop la filtrer par un excès d'humanité. Donc, nous sommes des membres du corps de l'Assemblée, du corps de Christ, et par analogie, je dis, nous avons chacun une de ces couleurs. Pas toutes, mais en particulier une de ces couleurs. Et en tant que membres du corps de Christ, nous produisons des effets différents, des réalisations différentes, des opérations différentes. Nous ne sommes pas tous pareils. Regardez-vous. Il n'y en a point comme vous. Mais soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Soyez vous-même pleinement. Nous avons des fonctions différentes, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres les uns des autres, mais avec des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Et là, je suis en train de paraphraser Romains 12, versets 4 à 8, je vais les lire correctement. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, mais nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Voilà sept dons qui sont mentionnés et ce sont ce qu'on a appelé les dons de motivation. Les voici, prophète, serviteur, diaconat, enseignant, exhorteur, le don de l'exhortation, donateur, celui qui donne, celui qui préside, il est dirigeant, et enfin, le miséricordieux. Et si vous avez suivi les enseignements, vous savez que j'ai développé chacun de ces aspects chaque fois pendant à peu près une heure de temps. Donc je ne vais pas revenir maintenant, je ne vais pas vous retenir jusqu'à 5 ou 6 heures cet après-midi en reprenant l'ensemble, rassurez-vous. Voilà donc ces sept dons de motivation. Et selon la compréhension qu'on a des dons du Père, ils sont pour tous les hommes. Ils ne sont pas simplement réservés à l'Église. Les dons du Saint-Esprit sont pour l'Église, sont pour les chrétiens. Les dons de service, sont pour les cinq ministères sont pour l'Église. Les dons du Saint-Esprit sont pour les chrétiens en Église. Et puis, ces dons du Père dont je parle ici, on les trouve chez tous les hommes parce qu'il y a des présidents, il y a des enseignants, il y a des donateurs, des exhorteurs dans toute l'humanité. Et ces dons peuvent être exercés bien ou mal. Je veux dire, Hitler, c'était aussi un prophète. Et ce n'est pas ce qu'on veut être comme prophète. Je prends un exemple, c'est un peu limite. Effectivement, j'ai atteint le point de, je ne sais plus comment on appelle ça, quand dans une discussion, quand les gens n'ont plus d'arguments. Ouais, mais c'est comme Hitler. Non, j'ai des arguments. J'ai des arguments et vous allez voir. En fait, Jésus, il était tout ça. Et c'est ça qui me frappe. Jésus réunissait dans sa personne tous ses dons. Nous ne les réunissons pas. Nous sommes appelés à être comme Jésus. Ce n'est pas parce que je suis enseignant que je dois rien donner, par exemple, ou bien pas exhorter, ou exercer la miséricorde. Non, mais je suis essentiellement enseignant, ce qui me concerne. Et donc, c'est là que je dois veiller à l'être aussi bien que possible. Mais vous êtes, vous, plutôt, peut-être serviteur, ou vous êtes exhorteur, ou dirigeant, ou prophète. Qu'est-ce que nous devons faire? Je crois que c'est important que nous découvrions chacun qui nous sommes, comment Dieu nous a voulu, comment il nous a câblés en quelque sorte, laquelle de ces caractéristiques il nous a données. Et je vais les caractériser, mais très brièvement. J'ai mis une ligne, en dessus de la ligne, c'est les bonnes choses que le prophète où les autres dons sont appelés à donner, en dessous de la ligne, c'est les problèmes qu'il rencontre dans sa propre vie, dans l'exercice de ce don. Mais le prophète, eh bien, c'est quelqu'un qui capte les desseins de Dieu, qui saisit la pensée de Dieu et qui aide les autres à vivre leur destinée en fonction de ça, en communiquant le projet de Dieu. Et ce sont souvent des gens qui qui ont des intuitions fortes et qui les donnent, et qui sont souvent des personnes assez intransigeantes. Le prophète a une passion pour la vérité, une passion pour la lumière, pour les principes de Dieu. Mais il est aussi quelqu'un qui doit travailler à son don, parce que ce don lui l'amène parfois à être très cassant dans les relations avec les autres, très jugeant, condamne facilement. Il connaît pas mal d'amertume, il peut être dans le non-pardon, et c'est quelque chose, c'est le revers de la médaille, en quelque sorte. Il y a la face où il y a des choses exceptionnelles qui lui sont données, et puis il y a le revers, et la sanctification, c'est travailler ce revers pour favoriser la face et les dons proprement dit. Le serviteur, lui, eh bien, il voit les besoins des autres et il veut faire tout ce qu'il peut pour aider les autres. Et il a un appel particulièrement à s'occuper des dirigeants qui, eux aussi, ont des besoins, qui ne peuvent pas pourvoir à tous ces besoins en tant que dirigeants, qui ont besoin d'aide, et pour que dans leur ministère, ils puissent être à fond, ils puissent être aussi libérés, en quelque sorte, d'un certain nombre de contraintes pour être plus efficaces. Le serviteur, c'est quelqu'un qui crée une atmosphère de sécurité. Il prie pour les gens, pour les dirigeants, il restaure les familles, il a beaucoup d'amour pour les personnes en difficulté. Il a un cœur pour les gens qui sont en difficulté et il sait comment les aborder. Il est capable d'aller vers eux, de leur parler, de les aider et de les aider à sortir de leurs difficultés pour vivre plus pleinement leur vie avec le Seigneur. Mais, revers de la médaille, le serviteur a tendance à avoir une faible idée de sa propre valeur. Il se méprise facilement. Il a beaucoup de soucis et, comme il voit beaucoup de besoins, il a tendance à s'engager beaucoup et peut-être trop. Et ça crée du souci, de l'anxiété, des difficultés pour lui. Et c'est des aspects auxquels il est appelé à travailler. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? Eh bien, lui, c'est un chercheur. Le prophète, il capte tout de suite la vérité que l'enseignant va peut-être mettre 3 mois à dégager et à trouver. Parce que l'enseignant, lui, il veut valider les nouvelles vérités. Il veut être sûr de ce qu'il peut enseigner et, fondamentalement, il va essayer de révéler la personne de Dieu aux autres, de la faire mieux saisir, mieux comprendre. Il produit du fruit en apportant des bénédictions à beaucoup, parfois à des générations. Mais l'enseignant est aussi quelqu'un qui peut être assez passif, qui est parfois sélectif dans ses responsabilités, ou qui a tendance à marcher par la vue plus que par la foi, qui préfère la doctrine, parce que c'est plus facile finalement que de parvenir à l'intimité avec le Seigneur. Ce à quoi il est appelé, bien sûr. L'exhorteur, l'encourageur, eh bien, c'est quelqu'un qu'en général on aime bien. C'est quelqu'un d'engageant, c'est souvent quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'entraînant. Il est appelé à révéler Dieu aux autres. Il appelle de nombreuses personnes à agir selon la volonté de Dieu. C'est souvent un évangéliste. Un évangéliste chaleureux, qui aime la fête, qui aime réjouir. Et par ses relations, il aide les gens à se réconcilier avec Dieu et avec les autres. L'encourageur. Mais lui aussi doit travailler à régler certaines choses négatives dans, ou certaines tendances qui pourraient devenir négatives dans, étant donné le profil qui est le sien. Il cherche à plaire aux gens, parfois trop. Il gère mal son temps. Il peut avoir tendance à faire des compromis pour faciliter, pour que ça aille mieux, pour encourager encore plus, mais peut-être pas de la manière qu'il faudrait. Le donateur. Il y a des gens qui ont un talent incroyable. Les ressources arrivent à eux facilement. On leur fait confiance. Et le donateur, ici, dans le royaume de Dieu, c'est celui qui rend possible des choses qui paraissaient impossibles. Il produit des bénédictions générationnelles dans la lignée familiale, mais dans l'Église aussi, dans des réalisations vivifiantes pour la sainteté et l'intimité avec Dieu. Il est celui qui encourage ce qui est en train de surgir, ce qui est nouveau, ce qui relève de la nouvelle naissance, en quelque sorte, les projets novateurs, des projets prometteurs, des implantations d'églises, etc. Mais lui, c'est quelqu'un qui est très indépendant et finalement, c'est à lui que les ressources viennent. Il pourrait croire que c'est à cause de lui qu'elles viennent. Non, c'est lui qui est celui qui est appelé par Dieu, en quelque sorte, à les recueillir. L'hypocrisie est un piège possible. Il peut être manipulateur, il peut être trop dans le contrôle aussi. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des éléments de bénédiction extraordinaires et des écueils qu'il faut travailler à surmonter ou à éviter. Le dirigeant, lui, eh bien, c'est le leader naturel. Il y a des gens, tout à coup, ben, ils se lèvent, ils prennent des responsabilités, ils gèrent les choses et ils sont reconnus, ils sont acceptés sans difficulté. Il aime être en charge, s'occuper des choses. C'est un bâtisseur, un rassembleur qui cherche à accomplir les plans de Dieu. Ah ben voilà, voilà ce que Dieu veut, on va le faire. Et il réunit une équipe, il choisit des gens, il trouve les donateurs qui vont l'aider à mettre ça en place et il fait avancer les projets. Lui, il veut libérer des bénédictions spirituelles pour le corps de Christ, à long terme, générationnel dans ce sens-là. Problème possible, son insensibilité ou parfois la morale un peu élastique pour faciliter les choses. Problème d'intégrité, donc, et tendance parfois à remplacer le programme de Dieu par son propre programme à lui. Et enfin, le miséricordieux ou la miséricordieuse. Bien entendu, chaque fois, ici, le français est embêtant pour ça parce que il n'y a pas de langue plus genrée que le français, hein, je crois. Et le masculin vaut pour tout le monde. C'est comme ça. Le miséricordieux produit la sainteté de Dieu dans son entourage. C'est probablement, de tous les dons, celui qui a la plus grande proximité avec Dieu, la plus grande communion avec Dieu. Et ayant cette communion, il veut communiquer de ce qu'il reçoit là aux autres. Il est appelé à venir dans la présence de Dieu et à l'adorer dans toutes les formes de vie. Et cette intimité avec Dieu, il est aligné sur lui et il veut la communiquer à ceux qui en ont le plus besoin. Mais lui aussi a ses écueils et ses limites, risque d'impureté, de mélanger le saint et le malsain. Il est tellement attentif à la souffrance que parfois il veut surprotéger les gens qui souffrent au détriment de leur sanctification. Voilà ce très bref portrait de chacun des sept dons. Alors on est là avec un peu comme un puzzle où il y a des gens qui sont plutôt prophètes, plutôt enseignants, plutôt miséricordieux, plutôt dirigeants, etc. Et c'est ainsi que nous retrouvons. Eh bien, qu'est-ce que nous devons faire ? Reconnaître notre propre don, parce que, et le travailler dans le sens que j'ai dit, pour éliminer ces écueils, pour effacer ce qu'on peut du revers de la médaille et enrichir le bon côté de la médaille, parvenir au plus de maturité possible dans l'exercice du don. Deuxième chose, il faut reconnaître les dons des autres. Si je suis, moi, enseignant, je dois reconnaître, le serviteur, le prophète, l'exhorteur, l'encourageur, et les autres. Reconnaître mutuellement nos dons et puis nous ajuster les uns aux autres pour que, ensemble, ça donne quelque chose d'un peu plus construit. On est là pour, en quelque sorte, s'imbriquer les uns dans les autres et ensemble retrouver en quelque sorte cette image du Christ qui, lui, a tous ses dons, avait tous ses dons. Et donc, ensemble, en Église, en communauté, nous pouvons former une image plus crédible de Jésus-Christ. Alors, peut-être que dans l'ensemble du plan du salut, c'est une petite chose. Mais c'est une petite chose qui est une petite tâche qui est là pour nous, qui est de notre responsabilité. Et on sait bien que si on est trouvé fidèle dans les petites choses, le Seigneur peut nous en confier de plus grandes. Mais que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, eh bien, il ne va pas nous en confier de plus grandes, parce que c'est un apprentissage aussi. Et alors, moi, je vous propose de comprendre cette tâche, en quelque sorte, de reconnaître nos dons, d'y travailler, de nous ajuster les uns aux autres et de recomposer, en quelque sorte, toute la lumière du Christ avec avec cet arc-en-ciel, avec ces sept couleurs de l'arc-en-ciel, que ce soit une petite chose importante à notre niveau. Les sept couleurs de l'arc-en-ciel, c'est de la lumière blanche réfractée. Et ensemble, nous la recomposons. Et puis, en la recomposant, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre l'image du Christ. Ici, dans ce beau portrait qu'en a fait Rembrandt. Alors, le jour des rameaux, les gens ont reconnu la royauté du Christ, mais ils n'ont pas vraiment compris de quel genre de royaume, de royauté il s'agissait. Eh bien, en ce qui nous concerne, ce que nous devons faire, je crois que la réponse ou la synthèse de ce que j'ai essayé de vous communiquer se trouve dans l'Épître aux Philippiens, Philippiens 2:12 et suivant. Et voici ce que dit ce passage. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. » Ou travaillez à votre salut. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors, c'est Paul qui parle là, mais imaginons, c'est aussi Jésus qui nous le dit. Hein ? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et cette parole me frappe ici par sa pertinence. Quand je l'ai trouvée, je me dis, oui, mais voilà, c'est bien ça que je dois vous communiquer aujourd'hui. Hein. Dieu crée en nous le vouloir et le faire, en particulier, je crois, avec ses dons de motivation qu'il nous donne. Et ensemble, nous pouvons briller comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie et en répandant la lumière du Christ.
Amen.
Seigneur, j'aimerais te dire merci pour qui tu es et pour tes plans envers nous, envers l'humanité, mais envers l'Église aussi, que tu appelles dans ce monde à être vivante, à être la présence du Christ sur terre. Ses pieds et ses mains sont moyens d'agir au travers de nous. Et merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins, tu ne nous laisses pas sans moyens, mais tu nous équipes par les dons de motivation, par les dons de ton Saint-Esprit aussi, qui nous sont donnés à nous chrétiens, par les dons, les ministères que tu accordes à l'Église, par tous ces éléments, par ton Saint-Esprit qui nous vivifie, tu nous permets d'être tes représentants sur terre, tes ambassadeurs, là où tu nous as placés. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu fasses brûler dans nos cœurs le désir de réaliser pleinement ton plan pour nous ici. Amen.